רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על הדין ועל האמת ועל השלום, שנאמר אמת ומשפט, שלום שפטו בשעריכם. רבן שמעון בן גמליאל nous enseigne que le monde tient sur trois choses, sur la loi, le din, sur la vérité et sur la paix. Ainsi qu'il est dit, la vérité et la loi feront le shalom, feront la paix, et c'est ainsi que vous devrez juger à vos portes. Nous dit la Gemara dans Shabbat que le monde tient en effet sur la loi, c'est-à-dire sur le din, et cet enseignement s'adresse plus précisément aux dayanim, aux juges rabbiniques, à ceux qui doivent juger entre deux personnes ou tout simplement juger leur prochain. Ici, le Pirkei Avot nous dit que le monde tient sur leur jugement, sur le jugement du Dayan. Et effectivement, la Gemara Shabbat nous dit à cet égard que le Dayan, le juge rabbinique qui fait un vrai jugement, c'est-à-dire un jugement équitable, on le considère comme s'il s'était associé à Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. Il s'agit là, bien entendu, quelque chose qui reste à comprendre. Celui qui fait un jugement équitable, le Dayan qui s'assoit dans son Bet Din et fait un vrai jugement, un jugement équitable, on considère qu'il participe à la création du monde. Ça veut dire quoi exactement? On raconte que Rav Nogershal, lorsqu'il essayait de convaincre des gens, de les convaincre que la Torah était vraie dans le monde et leur prouver l'existence d'Akadosh Baruch Hu, il avait pris l'habitude de comparer la caméra et l'œil humain. Il leur disait la chose suivante. Regarde un peu une caméra. Regarde-la sous tous ses angles. Tu vois un appareil extrêmement sophistiqué ici. Nul aurait l'idée de dire qu'un appareil aussi complexe, aussi sophistiqué, puisse être le produit du hasard. Sa complexité est telle qu'elle prouve qu'elle a été créée, que l'objet, l'appareil, la caméra, a été créé par un être intelligent. S'il en est ainsi de la caméra, que dire de l'œil humain, infiniment plus complexe que la caméra? C'est là la preuve avancée par les Chazal, par nos sages à travers les générations pour nous prouver l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Non pas l'exemple de la caméra lui-même, qui est un exemple qui était pris, n'est-ce pas, dans les temps un peu plus rapprochés, mais la complexité, la sophistication de l'univers. Chaque parcelle de l'univers relève d'une telle complexité qu'il est la preuve, le témoignage d'une sagesse de l'ordre de l'infini. Il ne peut donc être que le produit de la création divine. Tel est le monde, nous dit le Maharal. Le monde tient dans l'harmonie des différentes parties qui le réunissent, des différentes parties qui le composent, et cela fait partie de sa complexité, et cela nous prouve effectivement Akadosh Baruch Hu. Prenons par exemple le soleil. Le soleil se tient à une certaine distance de la Terre. Imaginons que le soleil soit un petit peu plus éloigné de la Terre, alors la Terre entière gèlerait, toute vie sur la Terre serait impossible. S'il était un peu plus rapproché, alors la Terre brûlerait et une fois de plus, la vie serait impossible. Il se tient donc à la distance exacte de la Terre qui permet la vie. Et c'est cela l'harmonie. C'est cela l'harmonie de la nature qui, dans toute sa complexité, nous prouve l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Mais nous disent nos sages, cette harmonie de la nature tranche avec le chaos de la société humaine. Dans cette société où l'homme a tout cassé par ses fautes, on ne retrouve plus cet ordre-là de la nature. On trouve au contraire le désordre, le chaos, l'anarchie. Chacun essaye de voler son prochain, chacun essaye de prendre ce qui n'appartient pas. Et ce chaos et cette anarchie mènent tout simplement à la destruction du monde. Et c'est cela, nous dit le Maharal, la signification de la Gemara dans Shabbat, que toute personne qui fait un din emet, c'est-à-dire un vrai din, un jugement équitable, participe à la création du monde. Parce qu'en donnant à chacun ce qui lui revient par le biais du jugement, et en punissant celui qui a voulu s'approprier des choses qui ne lui appartenaient pas, ou du moins en l'empêchant de les acquérir, alors le juge parvient à mettre cette harmonie qui fait de l'ordre de la nature, à la rentrer aussi dans la société humaine, à faire aussi que la société de l'homme soit une société harmonieuse, et elle se joint ainsi au reste de l'univers. Et c'est en cela, comme nous le disions, que le juge, que le Dayan participe à la création du monde. On raconte un jour que deux femmes, sont venues devant le Dayan, sont venues devant le Rav. Que s'était-il passé? Elles avaient toutes les deux tendu du linge dans la cour, et en vérité, elles avaient tendu le linge sur deux fils différents, et sur l'un des deux fils, tout le linge a été volé. Et chacune des deux femmes prétendait que le linge qui restait, qui n'avait pas été volé, était le sien, et pas celui de sa compagne. Que fit le Rav? Il demanda aux deux femmes de sortir de la cour, et il demanda à sa femme de venir, elle aussi, tendre du linge, de rajouter du linge à celui qui n'avait pas été volé, et de le mélanger avec le linge qui n'avait pas été volé. Il fit ensuite rentrer chacune des deux femmes personnellement, lui demandant si elle reconnaissait le linge qui était à elle, du linge de ce qui n'était pas à elle. Évidemment, celle qui avait volé et à laquelle le linge n'appartenait pas était incapable de distinguer son linge à elle du linge qui appartenait à la femme du Dayan. Alors que, bien entendu, l'autre réussit à identifier son linge. Et c'est ainsi que sortit le din emet, où effectivement, celui à qui appartenait le linge put effectivement le récupérer. Nous avons ici l'idée de ce que représente un vrai jugement, un jugement équitable, un jugement emet, un jugement vrai. Un jugement vrai, ce n'est pas seulement de s'empêcher ou de ne pas pencher pour celui qui a tort, et de rester équitable et objectif dans ses jugements. C'est bien entendu cela, mais c'est aussi beaucoup plus. C'est s'investir complètement dans le jugement pour faire ressortir le Hémet, pour faire ressortir la vérité. Quel Dayan aujourd'hui ou quel juge, dans un cas comme celui que nous venons d'exposer, aurait l'idée de faire venir sa femme et de lui demander de tendre du linge pour essayer de voir laquelle des deux femmes reconnaîtrait le linge? Quelle personne aurait l'idée de faire cela? Seule une personne qui s'investit complètement dans le din, qui s'investit complètement dans le jugement qui se tient devant elle, pourrait avoir une idée comme celle-là. Et c'est cela de sortir le din emet, le vrai jugement. Ce n'est pas seulement, comme nous le disions, de rester objectif et impartial, ce qui n'est déjà pas facile, mais de s'investir par tous les moyens dans le jugement jusqu'à ce que le emet, jusqu'à ce que la vérité puisse ressortir. Un tel Dayan peut être effectivement considéré comme l'associé d'Akadosh Baruch Hu, l'associé d'Hachem dans la création du monde. La deuxième enseignement que contient cette Mishnah, c'est de nous dire que, en plus du din, le monde tient également sur le emet, sur la vérité. La Gemara dans Sanhedrin nous ramène une histoire terrible, une histoire terrifiante. Ça se passait à l'époque de la Gemara, effectivement, dans la ville de Kushta, qui aujourd'hui, je crois, est en Turquie, je crois qu'aujourd'hui c'est Constantinople. Et on disait que là-bas, les gens avaient l'habitude de ne jamais mentir. Et le résultat se fit immédiatement sentir. Comme personne ne mentait, comme tout le monde disait la vérité, alors l'ange de la mort ne faisait pas là-bas mourir les gens avant leur terme. Toutes les personnes là-bas mouraient âgées, aucune personne ne mourait jeune, tout arrivait jusqu'au terme de leur vie. Un jour, Rav Tivyumi, qui était l'un des maîtres de cet endroit, le Rav, l'un des rabbanim de Kushta, était dans sa maison. À ce moment-là, sa femme se lavait, je crois qu'elle se lavait la tête. Et juste au moment où elle se lavait la tête, deux femmes frappèrent à la porte pour venir la voir. Rav Tivyumi ne voulut pas leur dire que sa femme était en train de se laver. Ça peut se comprendre, ça le gênait. Il leur dit tout simplement que sa femme n'était pas là. Que se passa-t-il après? Rav Tivyumi perdit deux de ses fils. Que firent les habitants de Kushta, qui étaient des tzadikim, comme nous le témoigne la Balagmara? Ils demandèrent à Rav Tivyumi pourquoi la mort avait frappé sa maison de manière si précoce, alors que dans toutes les autres maisons, la mort ne venait pas avant terme. Que s'était-il passé? Et Raftiv Yumi leur raconta toute l'histoire qui s'était passée, à savoir qu'il n'avait pas dit la vérité aux deux femmes qui voulaient voir sa femme, qu'au lieu de leur dire tout simplement qu'elle se lavait, il leur dit qu'elle n'était pas là. Et ainsi il mentit, et c'est cela qui amena la mort de ses enfants. Et que lui dirent les habitants de Kushta, qui étaient pourtant des tzadikim? Va-t'en, pars d'ici. Tu nous amènes ici le fléau, tu nous amènes ici la mort, ne reste pas ici. N'oublions pas, comme nous venions de le dire, que les habitants de Kushta étaient des tzadikim. Et n'oublions pas que si eux étaient des tzadikim, Raftiv Yumi était un des rabbanim de la Gemara, un kadosh, un homme saint, au-dessus des habitants de Kushta. On pourrait donc ici s'étonner un petit peu de tout. D'abord, de la sévérité du jugement qui frappa Raftiv Yumi. Le fait qu'il perdit deux de ses enfants pour avoir dit finalement un mensonge. Déjà, une telle punition pour un mensonge pourrait étonner, même si évidemment c'est grave de mentir. Mais à plus forte raison, pour un mensonge comme celui-là, qui ne portait pas vraiment à conséquence. D'autant plus que si Raftiv Yumi avait raconté une fausse histoire à ces deux femmes-là, c'était par tzniout, par pudeur, parce qu'il ne voulait pas leur dire que sa femme se lavait. Et si, effectivement, le jugement qui frappa, ou la punition qui frappa Raftiv Yumi, et notamment ses enfants, peut être étonnant, la réaction des habitants de Kushta est encore plus. Au lieu d'essayer de consoler le tzaddik, au lieu d'essayer de lui apporter du réconfort dans un moment aussi difficile de sa vie, ils lui dirent « Va-t'en, ne reste pas ici, tu vas nous apporter un fléau, tu vas nous apporter la poisse. » Ça veut dire quoi tout cela? D'abord, il est difficile de dire que Raftiv Yumi a été puni de mort pour la faute qu'il a fait. Il n'y a apparemment pas de comparaison possible entre la faute commise et le châtiment qui est survenu ensuite. D'autant plus que le châtiment n'a pas frappé Raftiv Yumi lui-même, mais ses deux enfants qui, eux, n'avaient raconté aucune histoire et n'avaient dit aucun mensonge. Alors comment expliquer le rapport entre ces deux événements, entre la petite histoire racontée par Raftiv Yumi et la mort qui est ensuite survenue? C'est qu'en vérité, il ne s'agit pas d'une punition ou d'un châtiment en plein sens des termes. Lorsque l'on dit la vérité, le fait de dire la vérité, de ne pas mentir, même pour une histoire apparemment anodine, cela nous protège. Cela crée autour de nous un écran de protection. Et lorsque on commence à ne plus dire la vérité, lorsque on commence à dire des choses qui ne sont plus exactes, alors, à ce moment-là, cet écran de protection disparaît et la mort rentre par l'ouverture qui vient d'être faite. On n'est pas puni ici pour avoir menti, à plus forte raison pour un mensonge comme celui-là. Mais lorsque l'on ment, toute la protection à laquelle on avait droit par le fait même que l'on disait la vérité, cette protection vient à disparaître. Et il se peut à ce moment-là que d'autres fautes infiniment plus graves que l'on a pu faire puissent à ce moment-là porter à conséquence et nous emporter. Et c'est pour ça que les habitants de Kushta ont dit à Raftiv Yumi, tu dois t'en aller. Tant que tu es là, cet écran de protection n'existe plus, du moins dans l'état actuel des choses où tu as effectivement menti. Et donc, ce fléau, le fléau de la mort, peut non seulement nous menacer ta maison, comme il a emporté tes deux enfants, mais nous menacer aussi. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous dit Rabbi Nouyona que lorsque l'on nous enjoint de dire la vérité, cela concerne tout ce que l'on peut dire, y compris des histoires anodines, y compris des histoires qui ne prêtent pas nécessairement à conséquence, comme l'histoire de Raftiv Yumi. Là, sa femme ne pouvait pas les recevoir. Quelle différence ça fait de raconter qu'elle ne peut pas recevoir parce qu'elle n'est pas à la maison, parce qu'elle se lave? Ça n'en fait aucune. Mais même pour des histoires qui ne prêtent pas à conséquence, aussi anodines, on doit dire la vérité, on ne doit pas mentir. Pourquoi? Parce que lorsque l'on commence à mentir, même pour des choses qui ne portent pas à conséquence, alors à ce moment-là, même pour des choses qui portent à conséquence, on ne saura plus dire la vérité. C'est pour ça qu'il faut s'éloigner du mensonge autant qu'on le peut. Le dernier des enseignements rapportés ici par la Mishnah concerne la paix. La paix, c'est l'apothéose, nous dit Rabbi Nouyana. C'est le but de tout. Mais cette paix-là, on ne peut y arriver que si les deux premières conditions sont remplies. Seulement si on fait le din comme il faut, c'est-à-dire que l'on prononce des jugements équitables au bet din, et que l'on dit la vérité, que l'on s'éloigne du mensonge, à ce moment-là seulement, la paix est possible. Et ainsi que nous le dit également le Maharam Chik. Pourquoi la Mishnah, lorsqu'elle nous dit que le monde tient sur trois choses, elle nous dit d'abord qu'elle tient sur le din, c'est-à-dire sur le fait de prononcer des jugements équitables, sur le emet, sur le fait de dire la vérité, et seulement à la fin sur la paix. Parce que s'il n'y a pas la vérité, s'il n'y a pas de vérité, s'il n'y a pas de jugement équitable, la paix ne peut non plus subsister. La paix, la vraie paix, la paix authentique, ne tient que sur la vérité. Mentir pour préserver la paix, ça ne mènera à rien. Ça préservera peut-être la paix dans un laps de temps court, mais pas à long terme. Il subsiste quand même un certain étonnement en ce qui concerne cette Mishnah. Comme nous l'avons dit, cette Mishnah nous enseigne que la paix tient sur trois choses. Sur le din, sur le emet, c'est-à-dire sur la vérité, et sur la paix. Mais il y a une autre Mishnah au début du Pérek, du chapitre que nous avons enseigné ici dans les Pirkei Avot, qui dit que, en vérité, le monde tient sur trois autres choses, à savoir sur la Torah, sur la charité et sur les sacrifices que l'on apporte au temple, c'est-à-dire le Avodah. On a donc l'impression ici d'une contradiction entre les Mishnah. La Mishnah qui, au début de notre chapitre, dit que le monde tient sur la Torah, sur la charité et sur les offrandes que l'on apporte au temple. Et ici, on dit que le monde tient sur trois choses complètement différentes. En vérité, Rav David Azoulay nous dit qu'il n'y a pas réellement de contradiction. La première Mishnah était vraie à l'époque du temple, où on pouvait aussi apporter des offrandes. Or, les offrandes, comme nous l'avons dit, c'était l'un des trois piliers sur lesquels le monde tenait. Aujourd'hui, que l'on ne peut plus apporter d'offrandes au temple, nous dit Rav Azoulay, alors il faut remplacer les offrandes que l'on apporte au temple par ces trois choses-là que sont le jugement équitable, la vérité et la paix. Une autre explication que l'on retrouve également, il me semble, dans le Bar Tenora, et qui est également ramené par Rav David Azoulay, tient à ceci, à savoir qu'on le parle de deux choses différentes. Lorsque la première Mishnah, celle que nous avons citée précédemment, nous dit que le monde tient sur la Torah, sur la charité et sur les offrandes que l'on apporte au temple, cette Mishnah-là nous parle de ce qui a amené le monde à exister. Et nous parle de ce sur quoi tient le monde dans son ensemble. Cette Mishnah-là qui nous dit que le monde tient sur les jugements équitables, sur la vérité et sur la paix, ne nous parle pas précisément de ce sur quoi l'univers dans son ensemble tient, mais sur ce qui est nécessaire pour préserver la paix de la cité, la vie en société. Si l'on veut qu'il y ait une vie en société, alors on doit préserver ces trois choses que sont le jugement équitable, la vérité et la paix.